Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte l'histoire de l'une des héroïnes du début du mouvement des Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur, qui a pris ses distances aujourd'hui. Une histoire parmi d'autres, mais vous le verrez, très emblématique, et que je tire de son livre qui paraît chez Flammarion, « Restez digne, pourquoi je me bats ?» Je l'ai écrite avec Simon Veil, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Ce que je veux vous raconter, c'est comment ex-enfant battu, ex-compagne humiliée, ex-employé malmené, j'ai appris à ouvrir les yeux, à relever la tête. C'est l'histoire d'une métamorphose. Je suis né à Évreux, en Normandie, en 1987. Ma mère travaille à l'usine, mon père est électricien, enfin je crois. Je dis je crois parce que il passe plus de temps à boire qu'à travailler. Mon père, il est grand, charpenté et roux comme moi, avec les mêmes yeux bleus. J'ai un souvenir fort qui me reste. Mon père vient de frapper pour la énième fois ma grande sœur de 11 ans. Ma mère hurle pour qu'il arrête. Et là, il lance à travers la pièce une soupière, une grosse soupière. Ma mère prend mon frère dans ses bras, ma petite sœur par la main, et ma grande sœur prend la mienne. On traverse le jardin, on court dans la rue, et on atterrit chez des voisins. Et on passe une partie de la nuit chez eux, sous les lits, à se planquer. Il ne sait pas qu'on est là. Et après, des amis prennent le relais, on se cache dans leur grenier, ou à la cave, derrière des sacs de pommes de terre. Et quelques semaines plus tard, on est recueilli dans un foyer pour femmes battues. Un lieu merveilleux. L'impression d'être protégé. Et au chaud. Maman trouve un travail de femme de ménage. On aménage dans un petit appartement, une table, quatre chaises et des matelas. Mon père est interdit de visite, mais il vient de temps en temps tambouriner à la porte. Et là, on met les meubles derrière la porte pour la bloquer. J'ai 7 ans et ma mère nous annonce. J'ai rencontré un monsieur. Je voudrais vous le présenter. On monte dans notre vieille voiture bleue. Je te préviens, maman. Si je l'aime pas, je le jette par la fenêtre. Je ne l'aime pas immédiatement. D'abord, je le trouve moche, petit, brun. Il lui manque des dents. Il met du pinto dans ses cheveux. Et en plus, il n'a pas le permis de conduire. Un paumé, qui finit par emménager avec nous. Comme ma mère fait des ménages dans les bureaux, elle n'est là ni le soir ni le matin. Et donc, il commence à faire sa loi. On n'a pas le droit d'aller dans le salon. Vous avez qu'à rester dans vos chambres. Et le matin, il faut attendre qu'il ait fini son café et sa clope pour pouvoir sortir de notre lit et venir manger. Et après l'école, pas question de traîner. 5 minutes de retard et... Et la télé, c'est pour lui. Il a mis en place un système pour qu'on ne puisse pas l'allumer dans son dos. Notre univers se rétrécit à notre chambre. On étouffe. Et si on franchit le seuil, punition. T'as qu'à donner ton manger au chien. Pour nous punir, il nous fait mettre à genoux sur un manche à balai. Je le dis à ma mère.
Il est con, maman. Il nous maltraite.
Elle refuse de le voir. Elle dit.
Bah, sans lui, on n'aurait pas mangé. Et être maltraité, c'est pas ça. C'est être enfermé dans un placard. Et c'est avoir des brûlures de cigarettes sur le corps.
Et là, je me dis. S'il n'est pas là, on pourra plus manger. Et ce sera de ma faute. J'ai déjà accompagné ma mère au Secours catholique.
Vous avez combien d'enfants? 4? Alors je vous donne une douzaine d'œufs et puis 2 bouteilles de lait?
J'ai honte. J'ai la trouille que les voisins et les copines de l'école nous voient. Aux yeux de mon beau-père, je suis la pire de toutes.
Oh, mais de toute façon, celle-là, elle finira avec un bougnoule et une tribu de gamins. C'est qu'une bonne à rien.
Mais j'ai quand même une amie, Hélène. Chez elle, il y a du Nutella et de l'amour. J'en ai longtemps voulu à ma mère. Elle a fait ce qu'elle a pu. Sa vie n'a pas été facile. Elle ne savait pas ce qu'était la tendresse. Elle n'en avait jamais reçu. À la fin de la troisième, on nous donne une feuille verte en nous demandant de choisir notre orientation pour l'année prochaine. Et moi, j'ai un rêve. Je veux devenir sage-femme. Et donc je coche la case seconde générale. J'aime l'école. Le soir, je pose la feuille de papier sur la grosse table en chêne de la salle à manger. Mon beau-père m'appelle.
Non, mais tu crois pas qu'on va payer les études? Tu fais comme ta sœur. Il y a un CFA pas loin, tu vas te choisir un métier là-bas.
Je regarde la liste des CAP. Coiffeur, boucher, vendeur, serveur. Serveur, c'est bien. Les horaires sont décalés. Je verrai moi mon beau-père. Et puis je vais pouvoir préparer mon départ. J'ai un petit copain, Christophe. Je l'ai rencontré au camping de Dives-sur-Mer où on a une caravane. Il est désamianteur. J'ai 16 ans, il en a 7 de plus. J'existe enfin aux yeux de quelqu'un.
Ça te dirait qu'on aille au ski en vacances?
Mon beau-père m'interdit d'y aller.
Moi, je pars quand même.
Mais quand je rentre, il est ivre, il m'insulte, je lui réponds, et là, bam, il me cogne. Il me propulse d'un coup de boule sur la baie vitrée.
Ma mère le fiche dehors, mais il revient.
Et donc à 16 ans et demi, je m'en vais. Et je m'installe avec Christophe. On habite un petit F2 à Rouen. On est heureux. C'est mon héros, Christophe. C'est mon sauveur.
Et je tombe enceinte. Et arrive Emma. Une explosion d'amour. Ma revanche.
Et puis quand elle a 2 ans, on se marie. Et puis, il se met à m'insulter.
T'es qu'un gros tas de merde, va. Tu t'es regardé? T'as vu comme t'es grosse?
Et il boit trop.
Mais moi, c'est comment un couple heureux? Je n'ai pas de modèle. J'ai pas de repère.
Alors, on rafistole notre couple et on déménage en Bretagne, à la campagne. J'adore la campagne. Mon jardin potager, le chien, le chat, les poules. Et puis, je travaille, d'abord sur les marchés, avec Marie, une camelote qui vend des râpes à légumes.
Les patates, y a rien de plus simple. Hop, 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 et voilà les frites. Et les carottes, c'est pareil.
Marie, c'est l'une des rencontres les plus importantes de ma vie. Je lui raconte mon histoire pour la première fois.
Oh, mais dis donc, il faut que tu renoues avec ta mère. Dis-lui ce que tu ressens.
Elle a raison, mais il faut du temps pour pardonner. Christophe dit que je suis grosse. C'est vrai, 95 kilos. Et même à un moment, je monte à 120 kilos. Ni Christophe ni moi n'avons jamais été éduqués à bien manger.
On va au fast-food tous les soirs. Les légumes sont en conserve, des féculents à tous les repas, de la mayonnaise, du ketchup.
Dans nos placards, il y a du Nutella, des biscuits apéritifs. On boit des sirops sucrés, jamais d'eau. Mes cuisses frottent quand je marche.
Ça fait mal. Je monte des marches, je transpire. Ça coule dans le dos.
Je suis tellement grosse qu'un jour, je ne m'aperçois pas que je suis enceinte de 4 mois.
Maëlle.
Bon, je suis quand même heureuse. Je vais voir un médecin spécialisé en nutrition. J'adore ces rendez-vous. Et entre chaque séance, je maigris. Je perds 25 kilos. Et là, je me mets à courir. La première fois, 200 mètres. Je crache mes poumons. Et tous les jours, j'augmente la distance. 300 mètres. 400 mètres. Aujourd'hui, 500 mètres. Et en un an, je perds 50 kilos. Et je me laisse pousser les cheveux. Et là, je vois le regard des hommes changer. Je séduis. En 2011, j'entreprends une formation de pompier volontaire contre l'avis de Christophe. Un jour, je vais donner un coup de main à ma future caserne. Il passe la soirée à m'insulter par SMS. Tu pourras pas rentrer. J'ai mis les clés sur la porte. Et je rentre et la porte est effectivement bloquée. Alors je tambourine. Il ouvre.
T'es qu'une salope!
Et là, il me plaque contre le placard et il se met à me serrer le cou.
Maman!
Ma fille de 6 ans nous voit du haut de l'escalier. Et après, il s'excuse. Mais c'est trop tard. Et je me retrouve seul avec 2 enfants. Un chien, un chat, des poules. Mais libre. Libre. Je ne me laisserai plus jamais maltraiter. Vous entendez? Plus jamais. J'ai renoué avec ma mère. Elle est venue quelques jours à la maison. Elle prend plaisir à s'occuper de mes enfants. C'est nouveau, ça. Elle est capable de leur donner de la tendresse. Moi qui n'en ai jamais eu. Du coup, je retourne en Normandie. À la mission locale, une femme m'interroge sur mes rêves professionnels.
Ben, j'aurais voulu être sage-femme.
Ah ah ! Et infirmière ? Vous ne voudriez pas être infirmière ?
Ben, c'est que j'ai pas le bac.
Eh bien, commencez par être soignante. Et 3 ans après, vous passez le concours.
Je sors de ce rendez-vous avec les yeux qui brillent. Cette femme vient de m'ouvrir un avenir. D'autant que je viens de réussir mes tests pour être sapeur-pompier volontaire. Me voilà donc dans une caserne, où les hommes me testent, bien sûr. Le premier jour, on part sur une tentative de suicide. Un homme qui s'est tiré une balle dans la tempe. On arrive, le chef me dit.
Toi, Ingrid, tu te mets à la tête et tu ventiles.
Le type a le visage explosé. Je pose le ballon sur son nez et sur sa bouche. Et je ventile jusqu'à l'arrivée du SMUR. Je passe 2 concours dans 2 écoles d'aides-soignants. J'obtiens 19 à l'oral dans les 2 et 14 et 15 à l'écrit. Mon premier stage en EHPAD. Oh que je me souviens de ma première toilette. Une vieille dame l'a déshabillée doucement, lui mettre une serviette, respecter sa pudeur, commencer par les bras et les mains, et puis remonter tout doucement pour ne pas l'apeurer. Et à la fin, lui mettre le parfum qu'elle aime, si elle en a un. Je ne me suis pas trompé. J'aime cet univers. J'aime ce métier. Après mon école, on me propose un contrat d'hospitalisation à domicile. Soigner les gens chez eux. Mais on oublie de me prévenir que 80% des patients sont en soins palliatifs, c'est-à-dire en fin de vie. Mais j'apprends. J'apprends à les voir partir. J'apprends à me blinder. Les vacances de Noël arrivent et je suis donc en vacances. Ma chef m'appelle.
Ingrid ? Bonjour Ingrid. Dites-moi Ingrid, j'ai un problème. Une de vos collègues est malade. Vous accepteriez de la remplacer ?
Oui, d'accord. Mais vous me les comptez en heures supplémentaires, hein ? Parce que du coup, j'ai mes 2 gosses à faire garder.
J'y vais 2 fois 12 heures et 1 fois 6 heures. Et la semaine d'après, je vois qu'elle n'a pas compté mes heures supplémentaires.
J'ai fait ce que je pouvais, mais c'est pas possible.
Je suis en colère. Et je la ravale, ma colère. C'est de pire en pire. À un moment, je décide d'aller voir un syndicat, pour la première fois de ma vie. Je rentre dans le bureau, et je me mets à pleurer. Je suis incapable de retourner travailler. Mon médecin me met en arrêt. Je demande à rencontrer des cadres avec un représentant syndical. On décide de m'affecter à une maison de retraite.
C'est ça ou la démission, hein?
Dans l'état où je suis. Une maison de retraite. Moi qui aime l'hospitalisation à domicile. On me vire en vérité parce que je me suis plainte. Je pleure tous les jours. une descente aux enfers, un burn-out. Les syndicats demandent à mes collègues d'écrire des lettres de témoignage en ma faveur. Elles ont peur. Elles sont contractuelles comme moi. Elles espèrent une embauche. Elles n'osent pas. On m'affecte finalement à une unité fermée pour malades d'Alzheimer. Je la connais, cette unité. Elle est à dimension humaine. On peut y travailler dignement, donc j'accepte. Et je reprends pied. Je les adore, ces vieilles personnes qui n'ont plus leur tête. Et puis la fin du contrat arrive. Je n'ai aucun problème avec vous, Ingrid, hein. Votre travail est impeccable. Mais j'ai reçu l'ordre de ne pas vous prolonger. J'ai été jeté comme une malpropre. Je ne veux plus travailler dans le secteur de la santé. Et donc je repars comme ouvrière, chez Schneider. Un travail routinier, sans émotion, mais à horaire fixe, et qui me laisse l'esprit libre, le soir, quand je rentre chez moi. Et puis assez vite, je me dis, je vais pas faire ça toute ma vie. Retour dans une clinique, en chirurgie. J'adore cette expérience, mais c'est effroyablement mal payé. 1250 euros net par mois. Et on se retrouve à deux au lieu de quatre. Pourquoi est-ce que je continue à vouloir exercer un métier altruiste, humain, avec du sens, puisque la société ne le reconnaît pas? Le 15 du mois, moi qui suis dynamique, passionnée, bosseuse, mon frigo est vide. Il faut que je le dise au président de la République. Je vais lui écrire un message. Je trouve son compte Instagram. Je poste mon message. Monsieur le Président, je ne fume pas, je ne bois pas. J'achète mes vêtements chez Promode, en solde. J'ai trois paires de chaussures, dont une paire de baskets pour courir. Je ne vais pas chez le coiffeur. Je mange des pâtes, quasiment jamais de viande. Je n'ai pas d'abonnement Netflix et mon portable est un vieux Samsung payé en quatre fois sur ses discounts. Le père de mes enfants a refait sa vie. Il gagne entre 2000 et 4000 euros par mois et il me verse une pension alimentaire de 100 euros par mois. Et par... Je n'ai jamais reçu de réponse. Plusieurs hommes m'ont proposé d'habiter avec eux depuis ma séparation avec Christophe. Ça serait une solution de facilité. Je n'accepte qu'une fois de prendre ce risque. Parce que j'y crois. Un homme que je fréquente depuis 3 ans. Je quitte mon appartement pour emménager dans sa maison. Il est commercial, plus aisé, il me fait découvrir les bons restos, les voyages, les sous-vêtements. Mais il a du mal avec mes enfants. Il les trouve trop brillants. Et puis... au bout d'un an, je découvre qu'il me trompe. Je partirai. Je partirai à la fin du mois. Ah non, non. Tu pars tout de suite. Tu pars ce soir. T'as 3 heures pour faire tes cartons et te barrer. On va squatter le salon de ma mère avec les enfants. Et puis je trouve un pavillon HLM. Je me reconstruis un petit cocon. J'ai compris la leçon, hein. Ne pas dépendre de qui que ce soit. Mais avec ce nouveau loyer, 690 euros par mois, je n'ai pas assez. Alors, les jours où je travaille pas, je vais garder une grand-mère atteinte d'Alzheimer, à tour de rôle avec une copine infirmière. Je vais dormir chez elle. J'arrive à 9h30, après avoir couché les enfants. Elle me réveille 5 ou 6 fois dans la nuit. J'ai soif. Et je repars le matin à 7h pour travailler, pour 50 euros la nuit. Ça m'aide bien, mais c'est épuisant. Et je n'ai plus de vie privée, je ne suis plus là pour mes enfants. Ça n'est pas tenable. Un jour, je vois une annonce collée sur une ambulance. Cherche ambulancier. Je les rencontre. Ah, c'est mieux payé qu'être soignante, hein. Et puis on ne travaille pas le week-end. Et on peut faire des heures supplémentaires. Ils me proposent même de financer ma formation. En novembre 2018, je suis en stage de formation et sur les réseaux sociaux. Je vois monter la protestation contre la hausse des taxes sur le carburant. Un routier, Éric Drouet, appelle à bloquer les ronds-points et les péages dans toute la France le 17 novembre. Autour de moi, tout le monde en parle. Je sens un élan dingue. J'ai vu qu'il y a un rassemblement près de chez moi, au péage de Bouville. Je vais y aller. Et donc je customise mon gilet jaune. Et j'écris dessus. Ras-le-bol. Aide-soignant de payer 1250 euros net par mois pendant que les actionnaires s'en foutent plein les poches. Macron, le roi, est avec les nobles pendant que le peuple crève la gueule ouverte. Gauloise réfractaire et fière. Et je donne rendez-vous sur place à ma mère. Je crois alors que je vais y passer une simple journée. Il est 8h du matin, le 17 novembre 2018. Je prends mon gilet jaune, une grosse écharpe, des gants, il fait très froid. Et dans la voiture en route pour le rassemblement, je me dis « Et si je me retrouvais toute seule ?» Quand j'arrive, ils sont déjà une centaine sur place. Et il y a plein de gens que je connais. Le temps de dire bonjour, on est deux fois plus nombreux. On se met en route pour le péage. On prend à pied la bretelle d'autoroute. Je me retourne. Je vois une marée jaune derrière moi. Ils sont beaux dans leur fraternité. Tous ces gens sont venus sans se concerter pour dire stop. Stop à la vie chère, stop au travail qui ne paye pas assez. Des émissaires vont négocier avec le personnel de l'autoroute pour faire ouvrir les barrières. Et les gens continuent d'affluer, qui ont tous les mêmes problèmes de fin de mois que moi, et qui ressentent le même ras-le-bol. C'est comme si on avait d'un coup enlevé les masques. Ma mère a apporté des sandwichs, et d'autres des croissants, des gâteaux. Le capot de la glacière sert de plateau pour les cafés. C'est généreux, c'est chaleureux. Mais depuis quand n'a-t-on pas vu un tel partage, une telle solidarité? Et les gens disent « On y retourne demain, hein ?» Et le lendemain, j'y retourne. Et le lundi, et le mardi, il se passe quelque chose. Je peux pas lâcher, quelque chose se tisse. Les médias se demandent si on n'est pas manipulé. Mais moi, je vois bien que je suis entouré de personnes qui me ressemblent. Certains ont voté à droite, d'autres ont voté à gauche. Moi, j'ai voté Macron à la dernière élection. Mais c'est pas le sujet. Le jeudi, il y a moins de monde. Mais il y a une caméra. Le journaliste interroge un gars, je l'entends dire.
Ah, Brigitte, c'est une vieille chaudière. Macron n'a qu'à la vendre, ça nous fera du fric.
Mais quel abruti! Quelle image ça va donner de nous? Et là, le journaliste s'approche de moi.
Bonjour, je peux vous poser quelques questions?
Alors, Macron démission?
Démission, ça va pas servir à grand-chose s'il part. Qui on va mettre à sa place?
Et j'enchaîne sur ma situation. Et là, il me demande si je vais manifester à Paris pour l'acte 2, samedi. Je ne sais pas encore. Il prend mon numéro, il me propose de se retrouver sur place. Et il me rappelle le lendemain.
Allô Ingrid, bonjour. Bon, on a fait le montage de la séquence vidéo, et mon producteur me demande si vous seriez intéressé à venir sur le plateau dimanche soir.
C'est pour quelle émission?
C'est politique sur France 5.
Cette rencontre va faire basculer mon rôle dans le mouvement des Gilets jaunes. Et ma vie?
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.